édition du soir avec Fabien Gazeau. Bonsoir Fabien.
Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que les prix de l'énergie flambent, on s'intéressera au projet de centrale solaire à Coulonges-Thouarsais, un projet d'envergure. Un témoignage à ne pas manquer dans ce journal, celui d'un couple de Moutiers sous Chantemerle qui a passé un an et demi en Ukraine avant de quitter le pays juste avant le début de la guerre. La ville de Bressuire met la main à la poche pour rattraper son retard en termes de logements sociaux. À ce propos, le projet de pension de famille avance. Il va s'installer dans le quartier de la Gaublechère. Gauvin Serre se rencontre ce dimanche à Bocapol. Vous entendrez l'auteur, compositeur, interprète en fin de journal.
Météo avec une matinée pluvieuse demain et puis développement d'éclaircies l'après-midi.
Un mot pour commencer sur les chiffres du mois de février en ce qui concerne l'insécurité routière. 888 infractions ont été relevées sur le département des Deux-Sèvres en février, dont 476 vitesses excessives, 121 conduites le téléphone à la main, 57 sous l'emprise d'alcool, 59 sous l'emprise de stupéfiants. 12 accidents ont été recensés pour un bilan de 14 blessés et 1 décès. Sur la route, justement, la circulation est coupée sur la D650 à Saint-Symphorien. Au sud de Niort, après une collision entre deux voitures au lieu dit Bel Air, un accident survenu à 17h, les perturbations devraient durer encore un peu.
Un projet de centrale photovoltaïque au sol va se concrétiser à Coulonges-Thouarsais.
Ce projet, acté par une signature chez le notaire hier, va permettre de reconvertir une partie du site de stockage de déchets de la loge, géré par le SMITED, le syndicat mixte de traitement et d'élimination des déchets des Deux-Sèvres, un projet conduit par Seolis et Urba Solar, sur une surface de près de 10 hectares. Cette centrale sera capable de produire de l'électricité pour la consommation annuelle de 2700 personnes, car ce qui sera produit à la loge sera injecté dans le réseau. Catherine Cousinard est la directrice générale du groupe Seolis.
C'est un projet effectivement d'envergure parce qu'il se situe sur un terrain dégradé qui sinon n'aurait pas été utilisé pour son potentiel. Et donc qui va permettre d'avoir une production d'énergie renouvelable, donc en local, sur un terrain qui est pour une partie déjà producteur de biogaz, donc assez vertueux déjà en termes de production d'énergie renouvelable, et sur une autre partie, donc on va à la fois produire de l'énergie électrique par panneaux photovoltaïques, mais aussi permettre du pâturage naturel et la cohabitation d'ovins.
Montant de l'investissement 4,5 millions d'euros. Le contexte actuel ne peut qu'encourager la diversification des productions de l'énergie, d'autant plus quand elles sont locales et vertueuses.
La stratégie nationale bas carbone de la France fixe déjà un objectif d'environ 30-33% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici à 2030. Mais il faut être plus ambitieux que ça à l'heure actuelle, vu les conditions de prix et les conditions géopolitiques qui viennent stresser encore plus la sécurité énergétique de la France. Donc on ne peut qu'encourager les collectivités dans un contexte où les investissements peuvent bénéficier de prêts à taux assez bas encore aujourd'hui, d'investir dans leur futur énergétique.
Catherine Cousinard, directrice générale du groupe Seolis. La mise en service de cette centrale solaire photovoltaïque portée par Seolis et Urba Solar sur un terrain loué par le SMITED est prévue pour début 2023. Face à l'augmentation récente et considérable du prix de l'électricité, la municipalité de Noailles-les-Aubiers a décidé d'ajuster l'éclairage public sur ses axes principaux dans un souci d'économie. Économie budgétaire désormais. Cet éclairage sera éteint à partir de 23h et allumé le matin à partir de 5h.
La hausse du prix des carburants que nous évoquions hier soir du point de vue des automobilistes et des transporteurs routiers impacte aussi les transports scolaires.
Exemple avec l'agglo de B qui en a la compétence sur le bocage bressuirais, avec près de 5 millions d'euros qui y sont consacrés chaque année. Au total, une cinquantaine de bus de différents transporteurs avec qui la collectivité a contractualisé assure les liaisons de 450 lignes quotidiennes. Dany Grelier, vice-président de l'agglo de B en charge des transports.
Il y a un contrat de passé, bien évidemment, avec les transporteurs. Et donc, dans ce contrat, il y a une révision de prévue tous les ans au mois de septembre du prix. Et selon, si vous voulez, cette révision de prix, dans le marché qui est passé, le prix du carburant vient, bien évidemment, est un facteur très important sur cette révision de prix. Au jour d'aujourd'hui, si on devait faire la révision de prix, on serait au mois de septembre, dans ce contexte actuel, on aurait 12% d'augmentation Alors, je ne sais pas si vous voyez, sur presque 5 millions d'euros, 12% d'augmentation, pour l'agglo, ça fait 600 000 euros.
Quels sont les leviers sur lesquels l'agglo peut jouer ?
Les leviers, hélas, on les connaît. C'est soit on augmente les tarifs de la carte, ou autrement, après, qu'est-ce qui compense et qui vient combler le budget de transport ? C'est la subvention d'équilibre. Mais ça, c'est pris sur le budget général de l'agglo. Et dans ces cas-là, ben, c'est les impôts.
Vous êtes en train de nous dire que les familles doivent s'attendre à une hausse significative de la carte de transport scolaire pour septembre ?
Ah non, c'est pas ce qui est envisagé pour l'instant. Hein. Aucun scénario. Moi, j'espère sincèrement, et je pense que tout le monde l'espère, hein, que les cours vont baisser du pétrole et que les impacts sur les transports seront diminués, même pour tout le monde. Hein, parce qu'aujourd'hui, dans nos communes rurales, qui peut se passer de voiture pour aller travailler ? Et voilà, on est tous tributaires.
Dany Grolier, vice-présidente de l'Aglo de B, en charge des transports, interrogé ce matin par Patrice Bémanongier.
Les deux Sèvres décrochent 61 médailles au concours général agricole.
La 58e édition du Salon de l'agriculture vient de refermer ses portes à Paris et les agriculteurs regagnent leurs exploitations en Deux-Sèvres pour certains médaillés par ce concours général agricole, véritable référence de qualité. 61 médailles décrochées donc par des éleveurs et des producteurs qui ont porté haut les couleurs du département. La Confédération paysanne a envoyé un document de 4 pages à tous les agriculteurs de Poitou-Charentes pour expliquer sa position au sujet des bassines. La volonté du syndicat n'est pas de générer de l'opposition ou de la confrontation, mais bien d'informer et de débattre. Ce ne sont pas les hommes et les femmes de terrain qui sont visés, mais bien le modèle. À l'heure où le conflit russo-ukrainien met en exergue la vulnérabilité du modèle agro-industriel, une autre voie est possible, écrit la Conf, celle d'une agriculture paysanne basée sur l'autonomie, la répartition, le travail avec la nature, la transmissibilité, la qualité des produits et le développement local. Toutes ces positions seront réaffirmées lors du printemps maraîchin du 25 au 27 mars prochain à La Rochenard, auquel la Confédération paysanne appelle à participer.
Installée en Ukraine depuis octobre 2020, la famille Small a dû revenir en France précipitamment ce mois de février.
L'ONG pour laquelle Thomas travaille, il est ingénieur dans une usine qui recycle les déchets plastiques en fioul, a en effet demandé à tous les ressortissants étrangers présents dans le pays depuis moins de 5 ans de quitter l'Ukraine très rapidement, une semaine avant l'attaque russe. Retour donc à Moutier-sous-Chantemerle pour Thomas, Marie et leurs 3 enfants de 9, 12 et 16 ans à l'abri des bombes qui n'épargnent pas Kaharlik à 80 km au sud de Kiev, une ville de 12 000 habitants dans laquelle il s'était très bien intégré, lui par son travail, elle par son bénévolat dans une association qui vient en aide aux familles en crise, celle qui est professeure des écoles à la Chapelle Saint-Laurent, en disponibilité actuellement, témoigne de la qualité de vie avant le conflit.
On était très très bien accueillis par la communauté, on s'entendait très bien avec beaucoup de gens dans la ville, avec nos voisins, avec les amis de nos amis. Tout le monde est vraiment très très accueillant dans ce pays, en tout cas là où on était.
C'est un déchirement forcément de partir comme ça.
Oui, c'était très dur de partir. On se sentait en sécurité le matin du jour où on nous a demandé d'évacuer. On a fait notre vie quotidienne comme tous les jours. Et quand on a dû évacuer, je suis allée faire un petit tour des voisins pour leur dire au revoir, des amis proches. On n'avait pas beaucoup de temps, on avait juste une journée pour évacuer le pays. Et le soir, tous nos voisins, nos amis sont revenus chez nous, nous ont amené des chocolats, des fromages, plein de choses pour le voyage. C'était eux qui étaient désolés pour nous qu'allons faire un long voyage alors que nous, on partait et on les laissait dans cette situation.
Depuis le mois de janvier, les Ukrainiens redoutaient que le conflit dégénère, alors que depuis 2014, ils se cantonnaient à une ligne de front au sud-est du pays. L'inquiétude s'est transformée en tragique réalité, un conflit suivi à distance et de manière un peu étrange. Car si les amis tremblent sous le bruit des bombes à Moutier, c'est la sonnerie des téléphones qui donne des frissons. Ils restent mobilisés pour aider ceux qui veulent fuir ou pour mettre en réseau des chaînes de solidarité sur place. On aura sans doute l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Thomas Small va repartir dans quelques jours à la frontière polonaise pour soutenir les réfugiés.
Il faut savoir que les réfugiés, c'est quasiment que des femmes et des enfants, parce que les hommes n'ont pas le droit de sortir du pays. Souvent, les hommes les accompagnent à la frontière et là, ils doivent se quitter. C'est vraiment un moment déchirant parce que l'homme repart vers la guerre et la femme va se mettre en sécurité avec les enfants et ne sait jamais si elle va revoir son mari ou pas, quoi. Donc, à la frontière, il y a vraiment besoin de gens pour prendre soin des gens, leur montrer de la compassion, de l'empathie. Il fait froid, il y a ce stress permanent, il y a des jours et des jours sans dormir à cause des sirènes et des bombardements, parce que c'est, ça a surtout lieu la nuit, en fait. Donc il y a un état de stress des gens là-bas qui est énorme, en fait.
Est-ce que ça vous a surpris, vous, de les voir vouloir résister à ce point?
Non, nous, par contre, ça ne nous a pas surpris. On savait que les Ukrainiens résisteraient.
Les Ukrainiens et les Russes sont tous les deux victimes de ce conflit, en fait. Mais les Ukrainiens ont commencé à goûter à la liberté et à la démocratie et ont commencé à s'engager sur une voie qu'ils ne veulent pas quitter aujourd'hui, qu'ils ne veulent pas mettre en péril. Et donc, effectivement, on n'est pas surpris qu'il y ait une telle résistance et une telle volonté de ne pas laisser détruire ce qu'ils ont vraiment eu du mal à construire. En fait.
Thomas et Marie Small sont donc loin d'avoir tourné la page de l'Ukraine qu'ils ont découvert un peu par hasard. Ils rêvent de retourner flâner le long du Dniepr qui traverse le pays du nord au sud. Mais on le vérifie tous les jours, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
La ville de Bressuire est mise à contribution pour la construction de logements sociaux.
Le contrat de mixité sociale signé entre l'État, la ville, l'Aglo, Deux-Sèvres Habitat et Atlantique Aménagement programme la réalisation de logements sociaux sur la commune de Bressuire de 2021 à 2025. Dans ce cadre, Deux-Sèvres Habitat prévoit la construction de 3 logements à Clazet et de 5 logements à Saint-Sauveur. La ville est sollicitée pour équilibrer financièrement les opérations à hauteur de 36 000 euros à Clazet et 81 000 euros à Saint-Sauveur. Emmanuel Ménard, maire de Bressuire.
L'État nous demande, vous le savez, de créer des logements sociaux. Nous sommes en déficit au niveau de la loi SRU. Donc, eh bien, pour cela, il faut que les bailleurs puissent équilibrer leur plan de financement. Et donc, ils font appel aux collectivités. Hein. Donc, nous mettons là sur Clazet et Saint-Sauveur entre 10 et 12 000 euros par logement. Donc, ce n'est pas rien. Hein. Quand vous pensez qu'il nous manque 600 logements, alors nous n'en ferons pas 600. Nous l'avons bien dit dans le comité de mixité sociale, mais vous voyez, il y a beaucoup de dépenses qui sont liées à l'habitat. Mais c'est une des priorités de Bressuire, il faut de l'habitat, Bressuire se développe, il faut que les gens se logent.
Toujours à Bressuire, une enquête publique va être lancée pour la cession d'un espace à l'association L'Escale, laquelle œuvre dans le domaine de l'insertion, puisqu'elle héberge les personnes ayant besoin d'être accompagnées du fait de leur parcours de vie. L'espace visé est situé à la cité de la Gaublechère.
Elle va faire ce qu'on appelle une pension de famille. Et donc, il va y avoir des logements qui vont accueillir des personnes qui ont eu un coup dur dans la vie, qui ont eu des difficultés, qui ont du mal à se remettre d'un handicap, d'un accident, enfin quelque chose comme ça. Et il y a également une maison d'hôtes avec quelqu'un qui les accompagne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et également un travailleur qui est avec eux.
Alors, on en est où dans ce projet? Il a été présenté aux riverains d'ailleurs, hein?
Il a été présenté aux riverains la semaine dernière. Et puis là, nous avons, lors de ce conseil, déclassé le terrain. Et puis maintenant, nous allons rentrer dans la phase de vente auprès de l'Escale, hein, d'enquête publique pour le déclassement. Et voilà.
Et sachez également à propos de Bressuire que la subvention au CCAS augmente. Elle est désormais de 400 000 euros actée en conseil municipal. Lundi soir, le nombre de personnes participant au chantier d'insertion est en augmentation, ce qui explique aussi en partie cette augmentation, 340 000 euros l'année dernière pour la subvention au CCAS.
Gauvincer sur la scène de Bocapol dimanche.
L'auteur, compositeur, interprète tourne pas mal en ce moment pour son plus grand plaisir et celui de ses fans, lesquels apprécient particulièrement ses textes, parfois intimistes, souvent engagés. Gauvincer est un artiste qui a des choses à dire et qui ne s'en prive pas.
Je crois que le rôle d'être artiste aussi, c'est d'être libre et de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans justement... Je ne veux absolument pas passer pour le mec qui va donner des leçons, qui va faire la morale aux gens. Absolument pas. Justement, la subtilité, c'est d'essayer de toujours faire en sorte qu'on essaye d'avoir un point de vue original sur les choses sans être trop premier degré. Et je pense que dans une certaine mesure, je suis un chanteur engagé. Après, c'est une appellation qu'on me donne et parfois, il y a des chansons qui relèvent de l'injustice. C'est vrai que c'est quelque chose au quotidien qui m'anime. De pointer du doigt ces injustices-là ou des choses qui peuvent me paraître absurdes dans la société, d'en faire des chansons.
À 32 ans, Gauvin Serre en est déjà à son troisième album, parfois comparé à des monuments comme Jean Ferrat ou encore Renaud, qui lui a permis de se révéler au grand public en première partie. Il est aussi gêné que flatté à l'évocation de ces grands noms de la chanson française. Creusois d'origine et parisien d'adoption, Gauvin Serre est dans son élément un peu partout, à la campagne notamment.
J'ai toujours porté en tout cas ces couleurs-là et bien sûr, elles sont tellement peu portées quelque part dans notre pays que j'essaye de les représenter au mieux. Et puis c'est vrai que moi j'ai une double vie d'habiter à Paris et puis d'avoir grandi dans ma Creuse, et en même temps j'y retourne très souvent aussi, notamment pour écrire. Voilà, ça me met dans des conditions idéales pour être inspiré.
Gauvin Serre en concert à Bocapol, à Bressuire dimanche, il reste des places. Bressuire, une ville qu'il connaît déjà, puisqu'avant de briller avec le manche de sa guitare, il s'illustrait avec un manche de raquette de tennis. Il a participé au top 10-12, preuve d'un bon niveau, ce qui sera sans doute l'occasion de causer tennis avec Yannick Noah, puisque les deux hommes partageront l'affiche en soirée d'ouverture du Festival de Poupées le 29 juin. En parlant de poupées, justement, c'est ce matin à 10h que s'est ouverte la billetterie du festival, et en un peu moins de 2 heures, 14 000 places ont été vendues, soit la moitié des spectateurs attendus pour l'édition 2022 qui se déroulera du 29 juin au 22 juillet.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et le ciel, Fabien, qui a l'air de vouloir se dégager pour la soirée.
Oui, mais les nuages vont reprendre possession du ciel la nuit prochaine et nous passerons la matinée de demain dans la grisaille avec des pluies. Des éclaircies se développent l'après-midi, mais les nuages restent menaçants. Du vent demain avec des rafales autour de 50 km/h. Côté température, de la douceur et très peu de différence entre le matin et l'après-midi, 9-10 degrés au lever du jour et 10 à 12 degrés pour les maximales. On attend un ciel d'éclaircie ce week-end avec du sec samedi, peut-être un peu de pluie en revanche dimanche.
Merci Fabien, c'était le dernier rendez-vous info près de chez nous pour ce jeudi retour demain.
Demain matin, 7h avec Patrice Bémanangy, bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.